Découvrez en DVD Yen de Djibril Diop Mambéty l'histoire d'une femme blessée qui prend sa revanche et celle de l'Afrique spoliée. Salué comme l'un des meilleurs films africains de l'histoire du cinéma, Yen est édité dans un coffret collector comprenant la bande originale du film composée par Oasis Diop et des entretiens exclusifs. Yen de Djibril Diop Mambéty en DVD chez Blackout avec RFI. Plus d'infos sur RFI.fr. Idée. Une émission proposée par Benoît Ruel. Seconde partie.
Et je suis toujours en compagnie de Frédéric Schifter, professeur de philosophie dans le Pays Basque, un philosophe, dit-il de lui, sans qualité, sans réseau, mais qui fréquente de temps à autre quelques voyous de son genre. Un genre sceptique manifestement, voire très sceptique, qui pense, comme Arthur Schopenhauer, que vouloir corriger les défauts du caractère d'un homme par des sermons de morale est aussi chimérique que de forcer un chêne à donner des abricots. Et c'est pour nous le rappeler que Frédéric Schifter vient de publier chez Flammarion un essai intitulé « Le bluff éthique ». Depuis son enfance, Frédéric Schifter pose sur ce qui l'entoure le regard froid de l'orphelin comme s'il n'y avait rien à espérer de l'homme. Cette catastrophe naturelle, dit-il, est de l'humanité. Et avec cet essai, « Le bluff éthique », il s'en prend à la quête éthique des hypermodernes qui, par exemple, s'évertuent à se vouer pour autrui sitôt que le mal l'afflige. Un génocide, une guerre, une épidémie, une famine, une vague de froid, une canicule, un cataclysme, une maltraitance. L'intellectuel engagé, affirme mon invité, a laissé place à l'affectif concerné. Et Frédéric Schifter de mépriser cette éthique du cœur, engagée et souvent festive, inscrite désormais dans l'emploi du temps des hypermodernes et qui vient enrichir leur programme d'épanouissement individuel. Frédéric Schifter, manifestement, vous avez une grande culture de l'Antiquité, de la philosophie de l'Antiquité, vous faites une très grande place aux anciens, mais il y a un homme qui, lui, n'appartient pas à l'Antiquité, que vous aimez particulièrement, c'est Montaigne. Pourquoi ?
Montaigne, ce n'est pas un philosophe. D'ailleurs, vous remarquerez qu'à l'université, enfin, ceux qui font des études de philosophie n'étudient pas Montaigne. Enfin, il n'est pas au programme. Moi, je classe les philosophes en trois catégories. Alors, il y a les philosophes proprement dits, ceux que l'on connaît, qui sont consacrés par l'histoire. Il y a, de façon très moderne, les intellectuels, qui sont souvent des philosophes de formation, et au milieu de ces deux catégories, il y a une catégorie de francs-tireurs que j'appelle les penseurs. Penseur Pascal, penseur Nietzsche, penseur Montaigne, et le premier des penseurs, je crois que c'est Montaigne. À la Renaissance, il inaugure un genre qui est celui des essais. L'essai, c'est un ouvrage de philosophie écrit à la première personne, qui n'a pas de visée systématique, qui navigue entre autobiographie, réflexion très personnelle et vision du monde. Mais tout cela s'entrecroise, se tresse ensemble pour donner une œuvre absolument incomparable, qui sont les essais de Montaigne, où la digression est possible. Il écrit à Sceaux et à Gambade, il s'embarque dans un sujet, mais il l'oublie aussitôt pour y revenir un peu plus tard, etc. Donc. Mais ce qui se dégage de la pensée de Montaigne, et non pas de sa philosophie, c'est une vision très nihiliste, très pessimiste, même si le personnage est peut-être joyeux, enfin s'y donne cette impression, mais aussi je crois qu'il y a un regard d'une implacable lucidité. Souvent on fait de Montaigne un peu une sorte d'aïeul de Voltaire. Ça n'a strictement rien à voir. Voltaire croit, grosso modo, dans l'humanité, malgré son scepticisme tempéré. Mais il y a un optimisme chez Voltaire qu'il n'y a pas chez Montaigne. Montaigne, c'est quelqu'un qui tente d'être lucide avec lui-même et qui ne veut absolument pas éclairer les hommes, sachant que c'est peine perdue. Et j'aime cette démarche-là du penseur. Oui.
Alors, vous dégagez notamment chez Montaigne, au sens de méditation obsédante, celle de la mort. Oui. Sa mort, la mort de son père, la mort de la Boétie, la mort de tout ce qui vit. Alors, si j'ai noté particulièrement cet aspect de la pensée de Montaigne que vous commentez, c'est parce que, alors je ne veux pas personnaliser à outrance évidemment cette émission, mais enfin, je reçois aujourd'hui Frédéric Schifter. Si j'ai noté cet aspect de la pensée de Montaigne, c'est parce que je n'ai pas pu m'empêcher de rapprocher ces pages consacrées à Montaigne d'un certain nombre de réponses que vous avez faites le 15 octobre 2007 au Figaro. Je vais en citer quelques-unes et puis je vous demanderai ce que vous pensez de ce rapprochement. Quelle différence faites-vous entre un penseur et un philosophe? Alors vous venez d'en dire un mot. Le philosophe est un penseur qui tente de faire tenir le monde dans un système. Le penseur ne voit pas la réalité en tant que monde, mais comme un univers fragmenté qui appelle une pensée fragmentée. Le pire cauchemar que vous ayez fait. J'étais orphelin de mon fils. Je précise, ça c'est moi qui le dis, que votre père est mort alors que vous aviez 10 ans. Dress code, autrement dit, comment vous habillez-vous? Je n'aime que le noir et le bleu marine, comme si je continuais à porter un deuil. Frédéric Schifter, allez, on va pas faire de la psychanalyse de bistrot, mais tout de même, la mort est très présente, constamment dans vos lignes. La séparation également. Est-ce que ça ne serait pas la source de votre scepticisme fondamental?
Mais bien sûr. Toute pensée surgit d'une épreuve de l'existence. Ou alors, c'est tout simplement la répétition de connaissances apprises ici ou là, à l'école, à l'université, etc. Mais à ce moment-là, ça n'a pas grand intérêt, si vous voulez. Schopenhauer disait que la pensée d'un auteur, c'était une pathographie, c'est-à-dire l'écriture d'une souffrance. Et c'est cela que j'aime chez Montaigne, notamment. C'est pour ça que je me place toujours sous sa lumière ou sous son ombre, je n'en sais rien. Parce que Montaigne disait une chose, il disait... il trouvait ridicule cette idée d'Épicure selon laquelle l'homme n'est pas concerné par la mort. Enfin bon, cette espèce de sophisme qui consiste à dire que si on est mort, on n'est plus préoccupé par la mort. Et tant qu'on est vivant, donc on n'est pas mort, donc la mort ne doit être rien pour nous. Ce qui est absolument un peu facile, si vous voulez, puisque au fond, notre grande affaire, c'est la mort. Et Montaigne rappelle que les Égyptiens, en pleine fête... Quand ils faisaient la fête, quand ils célébraient un mariage ou quand ils célébraient je ne sais quel joyeux moment de l'existence, en plein repas, faisaient apparaître comme ça une momie. Pour bien se rappeler que quand même, la vie, c'était les réjouissances, mais aussi cet horizon absolument inéluctable qui est celui de la mort. Et on ne peut pas penser sans l'horizon de la mort, c'est impossible.
Alors, la présence, je dirais, en majesté de Montaigne dans cet essai, mais aussi en filigrane, Michel Houellebecq. Manifestement, il y a du Houellebecq en vous. D'ailleurs, en exergue de votre 4e chapitre, vous citez l'écrivain en rappelant ce jugement. Alors, évidemment, qui peut faire rire, mais il faut bien en parler. La gendarmerie est un humanisme et l'éthique.
Alors, justement, parce qu'il n'y a pas d'éthique possible... Il vaut mieux le droit, la loi. Vous comprenez, que je sois un salopard, enfin ça c'est l'éthique qui le jugera ainsi, que je sois un salopard ou un type bien, en attendant je dois marcher sur les clous, en attendant je dois m'arrêter au feu rouge, en attendant je dois payer mes impôts, en attendant je dois faire ceci ou cela. La loi permet l'organisation des rapports humains, quels que soient les sentiments que nous éprouvons les uns à l'égard des autres. Par exemple, je prends un exemple précis. Aujourd'hui, il y a un mot qui revient systématiquement dans la bouche de mes contemporains et qui me fatigue, c'est le mot de respect. Respect ceci, respect cela. Mais on confond, je crois, le respect et l'estime. Je peux très bien respecter quelqu'un pour qui je n'ai aucune estime. Mais pourquoi je le respecte? Non pas parce que je suis animé d'une je ne sais quel élan éthique ou moral, mais tout simplement parce que la loi m'y oblige. Et j'attends que la loi l'oblige lui aussi à me respecter. Donc le respect, ce n'est pas une affaire de morale. Le respect, c'est une affaire de droit, de loi, autrement dit, et même de droit positif, si vous voulez. Donc il faut dégager la notion de droit de la notion de morale. La morale ne peut pas être une source du droit. Je dirais même que c'est l'inverse, que c'est le droit qui finit peut-être par faire naître quelques préoccupations éthiques.
Alors, Frédéric Schifter, vous commentez beaucoup les anciens, particulièrement les antiques, mais également Montaigne, Pascal, Hobbes et bien d'autres. En revanche, pas un mot de nos contemporains, par exemple, et ils ont pourtant pensé à un moment, si je puis dire, l'éthique, pas un mot de Michel Foucault, avec sa célèbre boîte à outils, entre guillemets, pas un mot de Jacques Derrida, et on pourrait en citer d'autres.
Alors, pour ce qui est de Michel Foucault, la culture de soi, etc., bon, ça entre, je crois, dans ce qui est aujourd'hui très à la mode. Enfin, je crois que c'est lui, en fait, qui a lancé, et ceux qui le suivent oublient de le dire, mais c'est lui qui lance cette idée qu'il faut cultiver, il faut cette espèce d'esthétique de soi-même, etc. Bon, je pense que c'est une chimère, dans la mesure où, encore une fois, entre le naître et le mourir, comme dirait Montaigne, nous n'avons le temps pour pas grand-chose, et certainement pas pour s'adonner à ce genre de culture de soi-même. Quant à Jacques Derrida, écoutez, moi aujourd'hui, j'offre une grande récompense, une forte récompense à celui qui me fera comprendre un traître mot de cet auteur.
Quand Derrida dessine, alors, je ne sais pas, des questions justement éthiques, mais il y a toujours une pensée contradictoire, complexe, qui frise avec l'impossible. Ça ne vous titille pas quand même, ça ne vous intéresse pas, parce qu'elle est loin d'être tout noir ou tout blanche.
Mais encore faudrait-il que je puisse comprendre Jacques Derrida. Eh bien, j'ai un problème, c'est un problème. Je crois que Jacques Derrida fait partie de ces philosophes qui pratiquent une sorte de langue qui s'enchante elle-même de ses propres vapeurs et qui sont bluffantes parce qu'on a l'impression que quelque chose de très subtil, de très profond, de très substantiel se dit. Mais on est aussitôt démenti, enfin, par l'auteur lui-même, en disant non, vous inquiétez, non, attention, vous croyez saisir le sens de ce que je dis, mais il faut attendre, il faut différer la compréhension de ce que, la différence, n'est-ce pas, avec un A. Tout de suite, là, ça vous bluffe, ça, la différence avec un A. Écoutez, j'ai mieux à lire. Schopenhauer disait, pour lire le bon, une bonne solution, ne pas lire le mauvais.
Voilà. Et Emmanuel Lévinas, que vous commentez un moment, Lévinas qui assure, par exemple, c'est le côté très, très célèbre, on dira très visible de Lévinas, que le visage d'autrui est toujours celui dont le regard me contraint et m'oblige, celui qui me constitue. Qu'en dites-vous, Lévinas qui, au passage, a inspiré en partie nombre de réflexions de Derrida, Lévinas?
Alors, Lévinas, c'est un phénoménologue. C'est très étonnant chez les phénoménologues, il y a toujours ce mot d'ordre, hein, revenir aux choses mêmes. Mais quand on regarde un peu, quand on prend la peine de les lire, il faut beaucoup de peine pour les lire, eh bien, on s'aperçoit que les choses disparaissent, s'évaporent. Par exemple, Lévinas, on connaît tous, enfin, les étudiants en philosophie connaissent sa phénoménologie du visage, n'est-ce pas? Donc, alors le visage devient sacré lorsque je ne me rends pas compte de la couleur des yeux d'autrui, de la forme de son visage, de ses traits, sont-ils grossiers, sont-ils fins, etc. Finalement, dans le visage se dessine le commandement « tu ne tueras point ». Bon, alors tout ça est très beau, tout ça est bien gentil, tout ça est bien ronflant, tout ça est peut-être tout ce que vous voulez, mais ça ne signifie pas grand-chose. Un visage, c'est avant tout l'expression incarnée de quelqu'un. Vous avez des têtes qui vous reviennent et des têtes qui ne vous reviennent pas. Vous avez des gens qui vous paraissent avoir une bonne tête et d'autres qui vous paraissent une sale tête. Ça, c'est le réel, n'est-ce pas? Et l'éthique qui consisterait à prendre en charge le visage de l'autre, je ne sais quoi, tout ça, c'est du blabla. Et je rappelle quand même que Lévinas, c'est quand même un philosophe qui a mis peut-être pas mal l'accent sur l'éthique, mais je vous rappelle que c'est un philosophe qui a considéré que Spinoza avait bel et bien trahi le judaïsme et que, dans une certaine mesure, il avait mérité son excommunication de la synagogue d'Amsterdam, n'est-ce pas? Vous savez, c'est à un moment donné, Ben Gurion s'était posé la question de savoir si on pouvait faire figurer Spinoza au nombre des pères du judaïsme moderne, etc. La question se posait parce qu'il avait été excommunié, vous savez, en 1656 par le rabbin de la synagogue d'Amsterdam. Et finalement, non, Spinoza n'est pas reconnu. Donc, à croire que peut-être Spinoza, pour Lévinas, avait une sale tête.
Frédéric Schichter, quand vous constatez qu'au rythme des tragédies à la mode médiatique, nos contemporains alors se déclarent un jour tous américains, le lendemain tous tibétains, le surlendemain tous birmans ou tous immigrés, vous avez envie de pleurer, de fuir, de rire?
Je ricane. Je ricane parce que c'est tellement facile d'épouser tout de suite la posture morale inattaquable qui consiste à prendre fait et cause pour les victimes. Pourquoi ? Parce que sous le feu de l'actualité, ce sont des victimes. Et effectivement, ce sont des victimes. Mais alors, c'est une posture, vous comprenez, parce que du coup, les victimes d'aujourd'hui seront vite oubliées pour les victimes de demain et celles d'après-demain, etc. Et au fond, c'est comme disait La Rochefoucauld, je cite beaucoup, j'ai l'impression, mais comme disait La Rochefoucauld, c'est nous avons beaucoup de courage pour supporter les maux d'autrui. Voilà, c'est tellement facile, si vous voulez, c'est tellement facile. Et alors, là, on fait appel à son humanité, on fait appel... Et je vois qu'il y a là quand même quelque chose qui ressemble un peu à la compassion, de la pitié un peu condescendante, et je me demande si c'est pas une forme sournoise, déguisée de haine.
Dites, vous êtes professeur de lycée, autrement dit, vos élèves ont l'âge de rêver, on sait bien, tous les sondages le prouvent quasiment tous les jours, que les jeunes aujourd'hui sont très intéressés par les métiers de l'humanitaire. Comment vous perçoivent-ils, plus exactement, comment entendent-ils votre discours sceptique et, au fond, quand même, peu mobilisateur? J'en veux pour preuve ce que vous écrivez à propos de l'engagement à la fin de votre essai.
Écoutez, à la limite, peu importe la manière dont ils me perçoivent, ce que j'espère, c'est qu'ils auront compris que, au fond, la philosophie, si elle a un rôle à jouer, ce n'est pas pour donner des leçons, etc., pour exalter l'engagement, mais pour la philosophie, c'est une discipline assez ingrate qui consiste à clarifier les pensées, à clarifier les notions. Et on s'aperçoit qu'à vouloir préciser le langage, préciser les notions, on finit par démystifier. Préciser, c'est démystifier. Je crois qu'il n'y a pas d'autre vocation du philosophe qu'à démystifier, donc détruire les idoles.
Frédéric Schifter, que dois-je conclure de cet essai, le bluff éthique, qu'on ne peut rien faire, sauf à accepter l'idée que la vie échoue toujours à nous donner la moindre satisfaction?
On sait comment ça se finit, n'est-ce pas? Mais il peut arriver que dans ce mauvais quart d'heure que nous ayons à passer, et qu'on appelle la vie, il y ait quelques minutes, quelques secondes exquises. Et en ce cas-là, effectivement, il faut savoir les saisir et en profiter, évidemment.
Eh bien, Frédéric Schifter, merci. Votre livre lucide, voire, penseront certains, sinon désespérés, à tout le moins désespérant, est aussi réjouissant dans un monde qui cherche de plus en plus à nous endormir. C'est selon. Eh bien, je rappelle le titre, Le bluff éthique, il est paru chez Flammarion. Et comme vous ne manquez pas d'humour, camarade de cordée du désespoir, c'est bien connu, je vais citer une phrase à laquelle, paraît-il, vous avez songé pour une épitaphe. La voici, « Arriver trop tard à tout, mais heureusement sans se presser ». Alors, je ne sais pas si vous confirmez, mais moi, c'est le genre de phrase qui m'amuse énormément. Si vous souhaitez nous écrire, je rappelle l'adresse de l'émission, idées@rfi.fr. Ce numéro d'idées a été mis en onde par Beru, et puis à la réalisation, comme toutes les semaines, Patricia Lecomte. Bonne lecture, très bonne semaine à tous.